Luoji répondit au récit de Taylor par un long silence. Quand une personne ordinaire discutait avec l'un d'entre eux, elle se disait toujours « C'est un colmateur, je ne peux pas croire un seul mot de ce qu'il me raconte ». Et cette suspicion provoquait inévitablement un handicap dans l'acte de communication. Mais lorsque deux colmateurs conversaient entre eux, cette suspicion naissait au même moment dans leurs deux consciences, créant un handicap au carré. Dans une telle situation, aucune phrase prononcée par l'un des deux interlocuteurs n'avait en réalité de sens, et par conséquent, c'était toute la communication qui perdait sa signification. C'était pourquoi il n'y avait jamais eu avant ce jour aucun échange privé entre colmateurs. « Comment jugez-vous l'analyse du fissureur ?» demanda Luoji pour rompre le silence. Mais il prit aussitôt conscience que cette question non plus n'avait aucun sens. « Il a deviné juste ?» Luoji avala sa salive. « Que dire ? Qu'y avait-il à dire ? Tous deux étaient colmateurs. Ce que je déteste maintenant par-dessus tout, c'est l'expression des gens quand ils me regardent. Dans les yeux des enfants, de la fantaisie. Dans ceux des adultes, de la vénération et dans ceux des vieillards, de la sollicitude. Leurs yeux disent tous « Regarde, c'est un colmateur, il est au travail. Lui seul sait ce qu'il prépare. Regarde comme il est appliqué, regarde comme il cache bien son jeu. Comment l'ennemi pourrait-il deviner quel est son véritable plan ? Ce plan si grandiose qu'il est le seul à connaître et qui va sauver notre monde. Pah ! Quels idiots ! » Luoji décida finalement de ne rien dire et d'adresser à Taylor un sourire muet. Ce dernier le regarda, une pointe de sourire oscilla sur la pâleur de son visage et se changea bientôt en un rire hystérique.
« Ah ah ah, vous avez souri ?
Un sourire au colmateur, un sourire de colmateur à un autre colmateur. Vous aussi vous croyez que je suis en train de travailler, vous aussi vous vous dites que je cache bien mon jeu, vous aussi vous croyez que je suis encore en train d'essayer de sauver le monde. Ah 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 ! Qu'avons-nous fait pour nous retrouver dans une situation si burlesque ? Monsieur Taylor, c'est un cercle vicieux dont nous ne pourrons jamais nous extirper, » soupira lentement Luoji. Taylor s'arrêta brusquement de rire. « Jamais ? Non, docteur Luoji, il existe un moyen de nous en extirper, il y a vraiment un moyen. Je suis venu ici pour vous le dire. Vous avez besoin de repos, restez ici pour quelques jours, » dit Luoji. Taylor hocha lentement la tête. « Oui, j'ai besoin de repos. Docteur, nous sommes les seuls à pouvoir comprendre la souffrance endurée par l'autre, c'est la raison pour laquelle je suis venu vous trouver. » Il leva la tête. Le soleil s'était couché depuis longtemps déjà et le jardin d'Éden apparaissait maintenant trouble sous les dernières lueurs du crépuscule. C'est un vrai paradis ici. Puis-je aller marcher seul au bord du lac? Ici, vous êtes libre de faire tout ce que vous souhaitez. Détendez-vous un peu, je vous appellerai dans un moment pour le dîner. Une fois que Taylor fut parti en direction du lac, Luoji s'assit et s'absorba dans une profonde réflexion. Pendant 5 ans, il avait nagé dans un océan de bonheur, encore davantage depuis la naissance de sa fille, qui lui avait fait oublier tout ce qui appartenait au monde extérieur. L'amour qu'il portait à sa femme et à son enfant avait fusionné et étourdissait son âme. Sur cette terre de douceur coupée du reste du monde, il sombrait de plus en plus souvent dans une illusion, celle que le monde extérieur était à l'état quantique, qu'il n'existait pas tant qu'il ne l'observait pas. Mais aujourd'hui, cet abominable monde avait surgi dans son jardin d'Éden pour le terrifier et le fourvoyer. Il ne pouvait pas continuer à s'égarer ainsi. Il orienta donc ses pensées sur Taylor. Les dernières paroles murmurées par le colmateur résonnèrent à ses oreilles. Les colmateurs pouvaient-ils vraiment se libérer de ce cercle vicieux ? Comment briser ces chaînes de logique en métal ? Luoji comprit soudain. Il releva la tête et regarda au loin. Dans la dernière clarté du crépuscule, on ne voyait déjà plus la silhouette de Taylor. Luoji bondit et courut en direction du lac. Il eut envie de hurler, mais comme il craignait de faire peur à Chuang Yan et à son enfant, il n'eut d'autre choix que d'accélérer sa course. Sous les rayons paisibles du couchant, il n'entendait que le bruissement de ses pas sur la prairie jusqu'à ce qu'un faible pan rompe brusquement son allure. Le coup de feu provenait des rives du lac. Luo Jin rentra chez lui qu'au milieu de la nuit. Sa fille dormait déjà à point fermé.
« Monsieur Taylor est déjà parti ?»
chuchota Chuang Yan. « Oui, il est parti, » répondit Luo Ji d'une voix fatiguée.
« Il a l'air d'avoir plus de mal que toi. »
« Oui, parce qu'il existe des chemins simples qu'il n'a pas voulu prendre. Yan, est-ce que tu as regardé la télévision ces derniers temps ?»«
Non, je... »
Chuang Yan s'interrompit. Luo Ji savait ce qu'elle se disait. La situation mondiale s'aggravait de jour en jour et le fossé se creusait de plus en plus entre ici et dehors. Ce décalage l'angoissait.
« Notre vie fait-elle vraiment partie de ton plan de colmateur ?»
demanda-t-elle en regardant Luo Ji avec son éternelle expression de candeur.
« Bien sûr. Tu en doutes ? Mais avons-nous le droit d'être heureux quand toute l'humanité est malheureuse ?»«
Ma chérie, ta responsabilité à toi, c'est précisément d'être heureuse et de rendre notre fille heureuse pendant que l'humanité souffre. Plus tu seras heureuse, plus mon plan aura d'espoir de réussir. » Chuang Yan regardait silencieusement Luo Ji. Ils avaient en partie concrétisé le langage des expressions du visage qu'ils avaient imaginé ce jour-là devant la Joconde. Luo Ji parvenait de mieux en mieux à lire son esprit dans ses yeux, et voici ce qu'il lisait à présent. « Comment pourrais-je te croire ?» Après un long moment de réflexion, Luo Ji poursuivit. « Yan, tout a une fin. Le soleil et l'univers mourront un jour. Pourquoi les humains prétendent-ils devoir vivre éternellement ? Écoute-moi, le monde est aujourd'hui en pleine paranoïa. Les hommes s'entêtent à vouloir se lancer dans une guerre qu'ils savent pourtant sans espoir. Et si nous changions radicalement de perspective pour appréhender la crise trisolarienne ? Et si nous abandonnions toutes nos angoisses, pas seulement celles liées à la crise elle-même, mais aussi les angoisses d'avant la crise? Et si nous consacrions le temps qu'il nous reste à profiter de la vie? 400 ans, peut-être même 500 si nous refusons de disputer cette ultime bataille. Ce n'est pas si court, c'est une période aussi longue que celle allant de la Renaissance à l'âge de l'information. Nous pourrions pendant la même durée créer les conditions d'une vie heureuse et insouciante. Passer 5 merveilleux siècles pastoraux sans même avoir à nous préoccuper d'un avenir lointain, avec nul autre devoir que de jouir du présent. Ce serait si merveilleux. »
À ces mots, Luo Ji prit conscience de son imprudence. En déclarant que le bonheur de Chuang Yan et celui de leur enfant faisaient partie de son plan, il ne faisait que les protéger. Il donnait à voir à Chuang Yan son bonheur comme une responsabilité. C'était la seule manière de préserver son équilibre mental devant la brutalité du monde extérieur. Mais il venait à présent de lui dire la vérité. Il ne pouvait résister à la pureté de son regard. D'ordinaire, il évitait de la regarder lorsqu'elle l'interrogeait, mais, bouleversé par le sort de Taylor, il n'avait pu s'empêcher de prononcer ces paroles.
« Bon, et... « Quand tu dis ça, tu es un colmateur ?» demanda-t-elle.
« Oui, bien sûr, » répondit Luo Ji pour rattraper le coup. Mais les yeux de Chuang Yan disaient
« Je crois bien que tu disais la vérité. »
Conseil de défense planétaire, 89e audience du programme Colmateur. Au début de la réunion, le président tournant prit la parole et exprima son espoir de voir le colmateur Luo Ji assister à la prochaine audience, expliquant que le refus de participer ne pourrait plus être justifié par les besoins de son plan. L'autorité de supervision du CDP dépassait celle de la mise à exécution de la stratégie du colmateur. La proposition fut adoptée à l'unanimité des représentants des membres permanents. Avec l'apparition du premier fissureur et le suicide de Taylor, les deux autres colmateurs présents dans la salle comprirent ce que sous-entendaient les paroles du président. Heinz parla le premier. Son plan reposant sur des recherches en neurosciences n'en était qu'à sa phase préliminaire. Il se contenta donc de décrire l'équipement qu'il envisageait comme support de ses futures explorations. Il lui avait donné le nom de « caméra analytique ». S'appuyant sur la technologie de la tomodensitométrie et de la résonance magnétique nucléaire, l'appareil permettrait de scanner toutes les sections du cerveau. Par conséquent,
Il nécessiterait une précision à l'échelle de la structure interne des cellules cérébrales et des neurones. Ainsi, le nombre de sections du cerveau humain qui pourraient être scannées en simultané atteindrait quelques millions, de manière à être synthétisé par l'ordinateur en un modèle mathématique du cerveau. Il y avait d'autres exigences techniques encore plus grandes. La caméra analytique devrait pouvoir scanner à un rythme de 24 images par seconde, de sorte à créer un modèle synthétique dynamique, ce qui équivaudrait à numériser l'intégralité de l'activité cérébrale à une résolution neuronale, puis à les envoyer dans l'ordinateur. On pourrait ainsi conduire une observation détaillée de l'activité mentale dans le cerveau et même reproduire virtuellement l'ensemble de l'activité neuronale dans le processus de la pensée. Ce fut ensuite au tour de Ray Diaz de décrire les avancées de son projet. Après 5 ans de recherche, son équipe avait presque achevé la modélisation numérique d'une superbombe nucléaire de puissance stellaire. On procédait actuellement à son débogage. Puis les experts du comité scientifique consultatif du CDP présentèrent un rapport détaillé de l'étude de faisabilité des plans des deux collimateurs. La caméra analytique de Heinz ne comportait a priori pas d'obstacles sur le plan théorique, mais les difficultés technologiques auxquelles elle se heurtait dépassaient de loin les compétences actuelles. La différence technologique entre un scanner moderne et l'appareil demandé par Heinz était à peu près la même qu'entre une caméra 8 mm et une caméra numérique à haute résolution. La plus grande barrière technique de la caméra analytique était le traitement des données. Scanner et modéliser un objet de la taille d'un cerveau humain avec une précision neuronale nécessitait une capacité de calcul que les ordinateurs d'alors ne possédaient pas. Concernant la superbombe stellaire de Ray Diaz, les obstacles rencontrés étaient du même ordre que ceux de la caméra analytique de Heinz. La puissance de calcul des machines à disposition était insuffisante. Après avoir effectué une enquête sur les capacités requises pour compléter ce modèle, les experts du comité scientifique consultatif avaient estimé que le calculateur actuel le plus performant mettrait environ 20 ans rien que pour modéliser 1/100 du processus de fusion. Or, le modèle nécessitant d'être simulé de façon répétée au cours de la recherche, son application effective était impossible. L'expert responsable des technologies de calcul du comité apporta des précisions. Si l'on observe l'évolution des technologies de calcul jusqu'à nos jours, depuis les calculs intégrés traditionnels à l'architecture de von Neumann, nous constatons qu'elles ont déjà presque atteint leurs limites de développement. La loi de Moore, qui postule la croissance exponentielle de la puissance des ordinateurs, ne sera bientôt plus valide. Bien entendu, nous pourrons encore presser jusqu'à la dernière goutte les citrons des technologies traditionnelles. Nous croyons que, même avec la décélération actuelle du développement des ordinateurs, la capacité de calcul requise par les plans des deux collimateurs pourrait être atteinte. Nous avons simplement besoin de temps, 20 à 30 ans selon les estimations les plus optimistes. Si cet objectif est atteint, il représentera le pic de la technologie humaine de supercalcul. Il sera compliqué d'aller plus loin car, dans une situation où les frontières de la physique sont bloquées par les interélectrons, les calculateurs de nouvelle génération qui suscitaient tant de fantasmes autrefois, les calculateurs quantiques, risquent d'être impossibles à concevoir. Nous voilà déjà face au mur qu'ont érigé les intellectrons sur le chemin de la science humaine, résuma le président. Alors il n'y a rien que nous puissions faire dans les 20 années à venir, dit Heinz. 20 ans ne sont qu'une prévision optimiste. Étant vous-même issu de la communauté scientifique, vous savez certainement ce qu'impliquent des recherches aussi pointues. Nous ne pouvons par conséquent qu'entrer en hibernation en attendant l'apparition d'un calculateur à la hauteur de nos projets, lâcha Ray Diaz. Je décide également d'hiberner, dit Heinz. Si votre choix est fait, je vous demanderai donc de bien vouloir transmettre mes respects à mon successeur dans 20 ans, sourit le président. L'atmosphère se détendit dans la salle. La décision des deux collimateurs avait engendré un soupir de soulagement chez les participants. L'apparition du premier fissureur et la mort du collimateur qui en avait résulté avaient porté un coup dur au programme. Le suicide de Taylor était d'autant plus idiot que si ce dernier avait continué à vivre, la vérité du plan essaim de moustique serait à jamais restée une énigme. mais sa disparition équivalait à confirmer l'existence de ce terrible projet. Il avait payé de sa mort sa fuite effective du cercle vicieux dans lequel était enfermé les colmateurs. Cependant, des doutes commençaient à grandir au sein de la communauté internationale et des voix s'élevaient pour qu'on limite les droits des colmateurs. Toutefois, étant donné la nature même du projet, de trop grandes restrictions empêcheraient les colmateurs de continuer à dissimuler leur stratégie et ce serait tout le programme qui perdrait son sens. Le programme colmateur suggérait un régime absolument inédit dans l'histoire de l'humanité et il fallait sans cesse l'ajuster. Il était clair que l'hibernation des deux colmateurs offrait au moins une période de transition qui permettrait de procéder aux adaptations nécessaires. Quelques jours plus tard, dans une base souterraine ultra confidentielle, Ray Diaz et Hines entrèrent en hibernation. Luoji avait sombré dans un rêve sinistre. Il rêvait qu'il longeait les galeries infinies du musée du Louvre. Il n'avait jamais fait ce rêve autrefois car il avait passé les 5 dernières années en pleine béatitude et n'avait pas besoin des rêves pour se remémorer ses bonheurs passés. Mais dans celui-ci, il était seul, une solitude qui avait disparu depuis 5 ans. Le bruit de ses pas résonnait dans le palais et, à chaque écho, c'était comme si quelque chose le quittait, si bien qu'il n'osa finalement plus avancer. Devant lui se dressait Mona Lisa. Elle ne souriait plus. Elle le fixait avec des yeux pleins de pitié. Quand il cessa de marcher, les sons des fontaines extérieures lui parvinrent et se firent peu à peu plus intenses. Il se réveilla. Le bruit de l'eau l'avait suivi dans la réalité. Dehors, il s'était mis à pleuvoir. Il se tourna et voulut attraper la main de sa compagne, mais là aussi, son rêve s'était fait réalité. Chuang Yan n'était plus là. Luoji bondit du lit et s'engouffra dans la chambre de son enfant. La douce lampe de chevet était encore allumée, mais sa fille avait disparu. Sur le petit lit déjà bien fait était posée une peinture. C'était une œuvre de Chuang Yan que tous deux aimaient beaucoup. Le tableau était presque entièrement vide. De loin, on aurait dit une feuille blanche, mais en s'approchant davantage, on remarquait des brins de roseau en bas à gauche, un oiseau sur le point de disparaître en haut à droite et, au milieu du vide, deux personnages minuscules. À la différence que, maintenant, se trouvait aussi au centre de ce vide une phrase calligraphiée dans une écriture gracieuse. « Mon amour, nous t'attendons au jour dernier. » Ce jour devait arriver tôt ou tard. Comment cette vie de rêve pouvait-elle durer éternellement? Cela devait arriver, ne crains rien. Tu t'y étais déjà mentalement préparé, se dit-il, mais il fut saisi d'un vertige. Il prit la peinture et se dirigea dans le salon. Il ne sentait plus ses jambes, c'était comme s'il planait au-dessus du sol. Le salon était vide. Les dernières braises dans la cheminée luisaient d'un rouge brumeux qui donnait l'impression que tout dans la pièce était comme de la glace en train de fondre. À l'extérieur, la pluie continuait à tomber. La même averse que cette nuit-là, 5 ans plus tôt, quand elle avait surgi de ses songes. Mais elle y était maintenant retournée, emportant leur fille avec elle. Luoji se saisit du combiné du téléphone. Il voulut composer le numéro de Kent, mais il entendit soudain un léger bruit de pas derrière la porte, ceux d'une femme. Pourtant, il était certain que ce n'était pas ceux de Chuang Yan. Il reposa le téléphone et se précipita pour ouvrir la porte. Une silhouette menue se dressait sous le porche. Même si elle n'apparaissait que sous la forme d'une ombre découpée devant le décor de la nuit pluvieuse, Luoji la reconnut immédiatement. « Bonsoir, docteur Luoji, » dit Sei. « Bonsoir. Et ma femme et ma fille ?»« Elles vous attendent au jour dernier, » répondit-elle en répétant la phrase inscrite sur la peinture. « Pourquoi ?»« C'est une décision du Conseil de défense planétaire, pour le bien de votre travail, pour votre responsabilité de colmateur. Vous devez savoir que les enfants supportent encore mieux l'hibernation que les adultes. Votre fille ne souffrira pas.
Vous avez osé les kidnapper. C'est un crime.
Nous n'avons kidnappé personne. » Ce qu'impliquait cette phrase fit frissonner Luoji. Pour ne pas avoir à affronter cette réalité, il s'efforça d'éloigner cette pensée. J'avais bien dit que leur présence faisait partie du plan. Mais après des investigations, le CDP a considéré que cela ne faisait pas partie du plan. Il a donc été décidé d'agir pour vous remettre au travail. Même si ce n'était pas un kidnapping, vous avez emporté mon enfant sans mon accord. C'est illégal.
Luoji prit conscience qu'en utilisant le pronom pluriel « vous », il incluait aussi sa femme, et son cœur frissonna de plus belle, si bien qu'il dut s'appuyer faiblement sur l'une des colonnes du porche.
C'est exact, mais dans un périmètre acceptable. Docteur Luoji, n'oubliez pas que toutes les ressources que vous avez mobilisées ne sont pas, elles non plus, toutes conformes à la loi. L'action de l'ONU peut parfaitement être juridiquement justifiée par la crise que nous traversons.
Vous représentez encore les Nations Unies ?
Oui.
Vous avez été réélu ?
Oui. Luoji faisait de son mieux pour changer de sujet, pour éviter de faire face à la cruauté de la réalité, mais en vain.
Comment puis-je ne plus les avoir ? Comment puis-je ne plus les avoir ? Se répétait-il en lui-même. Puis cette question lui échappa et il la posa à voix haute tandis qu'il glissait le long du pilier pour se retrouver les fesses sur le sol. Il sentit une nouvelle fois que le monde s'écroulait autour de lui, relâchant le même magma, sauf qu'à présent la lave bouillonnait et giclait à l'intérieur même de son cœur.
Elles sont toujours vivantes, docteur Luoji. Elles sont toujours vivantes, elles vous attendent dans le futur. Vous avez toujours été un homme de sang-froid, vous devez l'être encore davantage aujourd'hui. Si vous ne le faites pas pour l'humanité, faites-le au moins pour elle, affirma Sei en observant un Luoji effondré, assis le dos contre le pilier.
À cet instant, une bourrasque souffla des filets de pluie sous le porche. Ce courant d'air frais ainsi que les paroles de Sei parvinrent à refroidir quelque peu la chaleur qui lui brûlait le corps.
« C'était votre plan ? Depuis le premier jour qu'elle est arrivée ici, n'est-ce pas ?» demanda Luoji.
« Oui, mais à cette étape-là, nous n'avions pas d'autre choix. »
« Alors elle... est-ce qu'elle était vraiment spécialiste de peinture traditionnelle ?»
« Oui. »«
Diplômée de l'Académie centrale des Beaux-Arts ?»
« Oui. »
Alors elle...
Tout ce que vous avez vu d'elle est vrai. Tout ce que vous savez d'elle. Tout ce qui a fait d'elle ce qu'elle est devenue. Sa vie antérieure, sa famille, sa personnalité, son esprit.
Vous voulez dire que c'était bien ce genre de fille ?
Oui. Croyez-vous qu'elle aurait pu jouer un rôle sans interruption pendant 5 ans ?
Elle est telle que vous la connaissez, innocente et intelligente. Un ange.
Elle n'a jamais rien simulé, y compris même son amour pour vous, qui est sincère.
Mais comment a-t-elle pu garder un secret aussi cruel ? En 5 ans, elle n'a jamais laissé poindre le moindre indice.
En êtes-vous sûr ? Son âme est enveloppée de mélancolie depuis cette nuit pluvieuse il y a 5 ans où vous l'avez rencontrée. Elle ne l'a jamais dissimulée, cette mélancolie l'a accompagnée pendant toutes ces années comme une musique de fond omniprésente qui ne s'est jamais arrêtée de jouer. Et c'est la raison pour laquelle vous n'avez jamais remarqué sa présence.
Luoji comprenait maintenant ce qui avait fait tressaillir la partie la plus délicate de son cœur quand il l'avait vue pour la première fois, et ce qui lui avait donné l'impression que le monde entier était pour elle une éternelle blessure. Il comprenait pourquoi il était prêt à tout sacrifier pour la protéger. C'était cette mélancolie légère enfouie derrière son regard pur et limpide, cette mélancolie qui, comme les flammes de la cheminée, faisait se refléter tendrement sa beauté. Comme une musique de fond dont il n'avait jamais détecté la présence, mais qui s'était pourtant immiscée dans son subconscient et qui l'entraînait pas à pas vers les abysses de l'amour.
« Je ne pourrais pas les trouver moi-même, n'est-ce pas ?» demanda Luoji.
« En effet, comme je vous l'ai dit, c'est une décision du CDP. »«
Alors je veux les rejoindre au jour dernier. »«
C'est possible. »
Luoji avait imaginé qu'elle lui opposerait son refus, mais, comme la dernière fois, lorsqu'il avait voulu abandonner son identité de colmateur, la réponse de Sei avait été quasi immédiate. Il savait que les choses ne seraient jamais aussi simples, alors il l'interrogea.
« Est-ce qu'il y a un problème ?»«
Non, cette fois, vous le pouvez vraiment, » dit Sei.
Vous savez, depuis la naissance du programme Colmateur, des voix s'opposant au projet n'ont cessé de se faire entendre au sein de la communauté internationale. Pour défendre leurs intérêts, certains pays soutiennent des colmateurs et s'opposent à d'autres. Il en existe bien sûr qui souhaiteraient vous ôter cette mission. Avec l'apparition du premier fissureur et l'échec de Taylor, le pouvoir des opposants au programme s'est renforcé, tandis que celui de ses défenseurs se retrouve affaibli. Si vous demandiez aujourd'hui à être hiberné jusqu'au jour dernier, vous offririez aux deux camps la possibilité de se réconcilier. Mais, docteur Luoji, est-ce vraiment ce que vous voulez? Au moment de se battre pour la survie de toute l'humanité? Vous autres politiciens, vous aimez brandir cette idée d'humanité, mais je ne vois aucune humanité, je ne vois que des hommes. Et moi, je suis juste l'un d'eux. Un individu ordinaire, incapable de porter sur mes épaules la responsabilité de sauver l'humanité. Je veux simplement vivre ma vie. Soit. Mais Chuang'an et votre fille sont également deux de ces individus. Vous refusez aussi de porter la responsabilité de les protéger? Chuang'an vous a peut-être blessé, mais il est évident que vous l'aimez encore. Et votre enfant aussi, bien sûr. Depuis que le télescope Hubble 2 a apporté la dernière preuve de l'invasion de la flotte trisolarienne, nous pouvons être sûrs d'une chose. L'humanité se battra jusqu'au bout. Quand votre épouse et votre fille se réveilleront dans 4 siècles, elles feront face à l'ultime bataille, tandis que vous, vous aurez perdu votre identité de colmateur, vous ne pourrez plus les protéger. Elles seront condamnées à partager avec vous une existence infernale et à assister de leurs propres yeux à l'anéantissement final du monde. Êtes-vous prêt à cela? Est-ce la vie que vous voulez donner à votre femme et à votre enfant? Luoji ne répondit rien. Vous n'avez besoin de penser à rien d'autre. Songez simplement à ce dernier combat dans 4 siècles au regard qu'elles vous adresseront. Quel genre d'hommes verront-elles? Un homme qui les a abandonnés, elles et l'humanité? Un homme qui n'a pas accepté, qui n'a pas voulu sauver les enfants du monde, ni même le sien? Pourrez-vous, en tant qu'homme, soutenir ce regard? Luoji baissa la tête, toujours silencieux. En tombant sur les buissons des rives du lac, la pluie nocturne faisait murmurer une multitude de voix qui semblaient venir d'un autre espace-temps. Croyez-vous réellement que je puisse changer quelque chose? Interrogea Luoji en relevant la tête. Pourquoi ne pas essayer? De tous les colmateurs, vous êtes probablement celui qui a le plus grand espoir de réussir. Si je suis venu en personne aujourd'hui, c'est pour vous dire pourquoi.
Ah bien, dites-moi, pourquoi?
Parce que, de toute l'humanité, vous êtes le seul que la civilisation trisolarienne veut abattre. Adossé au pilier, Luoji fixait Sei, mais il ne voyait rien. Il s'efforça de se souvenir. « Cet accident de la route, » continua Sei, « c'est vous qui étiez visé, mais ils ont accidentellement tué votre ami. »«
Mais c'était vraiment un accident. La voiture qui l'a percuté a changé de direction pour éviter une collision entre 2 autres véhicules. »
Cela avait été longuement préparé.
Mais je n'étais à l'époque qu'un homme ordinaire. Me tuer aurait été facile, pourquoi une telle complexité?
Pour déguiser le meurtre en accident. Pour ne pas attirer l'attention. Ils ont bien failli y parvenir. Le même jour, dans la ville où vous vous trouviez, il y a eu 51 accidents de circulation et 5 morts. Un rapport de nos agents de renseignement infiltrés dans l'organisation Terre Trisolaris a confirmé que l'organisation avait minutieusement planifié votre meurtre. Mais le plus bouleversant, c'est que l'ordre émanait directement de Trisolaris, qu'il avait été transmis à Evans par un intellectron. C'est jusqu'à aujourd'hui le seul assassinat jamais commandité par les Trisolariens.
Moi? Trisolaris voudrait ma mort? Mais pour quelle raison?
Luoji se sentait à nouveau étranger à lui-même. « Je ne sais pas. Personne ne le sait. À part peut-être Evans, mais il est mort. C'était manifestement lui qui avait exigé que le meurtre n'éveille pas l'attention, ce qui renforce d'autant plus votre importance. »«
Mon importance ?»
Luoji secoua la tête dans un rire forcé.
Regardez-moi. Ai-je l'air d'avoir des super-pouvoirs ?
Vous n'avez pas de super-pouvoirs. Ne cherchez d'ailleurs pas de ce côté-là, vous feriez fausse route, affirma Sei en faisant un geste pour accentuer ses paroles.
Des recherches approfondies ont été conduites sur votre compte. Vous ne détenez aucun super-pouvoir, qu'il soit d'ordre surnaturel ou bien technique, à l'intérieur du cadre des lois connues de la nature. Comme vous l'avez dit vous-même, vous êtes un individu ordinaire. Vous êtes aussi un chercheur quelconque. Vous n'avez jamais rien accompli de remarquable, ou du moins, nous ne l'avons pas encore découvert. Le fait qu'Evans ait ordonné de ne pas attirer l'attention sur votre assassinat en est aussi une démonstration indirecte, car cela signifie que vos compétences sont susceptibles d'être possédées par un autre.
Pourquoi ne me l'avez-vous pas dit plus tôt ?
Nous craignions que cela n'influence ce que vous déteniez, peu importe ce que c'était. Comme nous en savions trop peu, nous avons considéré que le mieux était de laisser les choses suivre leur cours.
Dans le temps, j'avais eu l'idée de mener des recherches en cosmosociologie parce que...
Mais à cet instant, une petite voix au fond de sa conscience hurla « Tu es un collimateur !» C'était la première fois qu'il l'entendait. Il eut aussi l'impression d'entendre un autre son, comme le bourdonnement d'un électron voltant autour de lui. Il croyait presque apercevoir des petites taches de lumière floues comme des lucioles. Ce fut alors la première fois que Luoji agit comme un collimateur. Il ravala ses paroles et se contenta de dire « Est-ce qu'il y aurait un lien ?»
Sei secoua la tête.
« Sans doute pas. D'après ce que nous savons, c'est simplement un sujet que vous aviez proposé pour obtenir une bourse de recherche, mais vous n'avez jamais vraiment commencé et vous n'avez naturellement jamais produit le moindre résultat. En outre, même si vous aviez vraiment mené de telles recherches, nous pourrions difficilement espérer que vos résultats aient plus de valeur que ceux de n'importe quel autre chercheur.
Pourquoi cela ?
Docteur Luoji, parlons-nous franchement. De ce que j'en sais, vous êtes loin d'être un grand chercheur. Les études que vous conduisez ne répondent pas à un réel désir d'explorer la science, ni non plus à un vrai sens du devoir ou de la mission. C'est seulement pour vous une manière de gagner votre vie. N'est-ce pas quelque chose d'unanimement répandu ?
Ce n'est pas une critique, mais votre attitude est loin d'être celle d'un scientifique dévoué. Vos recherches sont la plupart du temps utilitaristes. Vous faites souvent preuve d'opportunisme, vous allez là où le vent vous porte et vous cherchez le sensationnel. Vous avez même déjà détourné à votre propre usage une partie des fonds alloués à votre recherche. Vous méprisez les conventions morales, vous n'avez aucun sens de la responsabilité, et vous adoptez une attitude moqueuse envers vos confrères entièrement dédiés à la science. En réalité, nous savons parfaitement que vous ne vous préoccupez guère du destin de l'humanité.
Alors vous avez utilisé cette stratégie de lâche pour me forcer la main. Vous m'avez toujours méprisé, n'est-ce pas ?
Dans des circonstances normales, aucune mission d'importance n'aurait jamais été confiée à un homme tel que vous. Mais il existe un élément qui bouleverse tout. Trisolaris a peur de vous. Soyez vous-même votre propre fissureur. Trouvez pourquoi.
Quand Sei eut terminé, elle descendit les marches du porche et s'engouffra dans une voiture qui l'attendait devant la villa. Le véhicule démarra et disparut dans le brouillard pluvieux.
Luoji était debout, il avait perdu tout sens du temps.
La pluie cessa peu à peu et le vent se leva. Il souffla les nuages noirs, révélant le clair de lune et les monts enneigés. En se retournant pour passer la porte de la maison, Luoji jeta un dernier regard à ce jardin d'Éden qui baignait dans une lumière argentée. Au fond de son cœur, il murmura à Chuangyan et à sa fille: « Mes amours, attendez-moi au jour dernier. »